Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Moi c'est Philippe et je co-anime en alternance cette émission avec Jean-Pierre. Malgré le confinement, Radio Campus Tour reste actif en vous proposant des programmes faits maison pour vous aider à passer un confinement plus agréable et en essayant de vous divertir autant que possible. Alors au programme aujourd'hui, des chroniques préparées à domicile par les animateurs de Radio Campus Tour, un livre, des films et un retour sur la radio dans les années 50. On va commencer par Jean-Pierre qui va vous faire découvrir des films sur le cinéma et après on passera à Marie qui nous fera découvrir la radio de 1957. Et nous on se retrouve juste après. Restez confinés, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tour.
A great classic comes to the screen.
Stay thy hand, fair prince.
Who said I'm fair? To be or not to be? Not to be.
Columbia Pictures is proud to present the screen's greatest action hero, Jack Slater.
Alors, puisque les salles de cinéma sont encore fermées pour un petit moment, hein, je crois jusqu'à mi-juillet et peut-être même plus, j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir deux films qui parlent de cinéma dans des styles très différents pour vous permettre d'avoir un choix éclairé et varié. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est le film de John McTiernan, Last Action Hero, qui est sorti en août 1993 avec Schwarzy en tête d'affiche, un film construit pour lui. Alors, de quoi ça parle, Last Action Hero? Ça parle d'un enfant, Danny Madigan, passionné de cinéma et passionné de cinéma d'action, de 11 ans. Grâce à un billet magique qu'il arrive à dégoter, et ben il va pouvoir entrer dans un film, dans le dernier film de son policier préféré, Slater, incarné par Arnold Schwarzenegger. Les deux vont ainsi vivre des aventures incroyables dans le film, hein, dans un univers cartoonesque au possible. Mais les choses vont se compliquer lorsque des personnages mal intentionnés du film s'emparent du billet magique et reviennent à New York dans la réalité où le crime paie plus qu'au cinéma et où il est beaucoup plus difficile qu'au cinéma d'arrêter le crime. Alors, petit récapitulatif, hein, quand on était gamin au début des années 90, ce qui était presque mon cas, le monde se divisait en deux, ceux qui étaient fans de Schwarzy et ceux qui étaient fans de Stallone. Les deux proposaient deux façons bien différentes d'aborder les films bourrins et si aujourd'hui ils peuvent plus se quitter et ils sont super potes, à l'époque c'était un petit peu le concours de celui qui avait la plus grosse avec des petites vannes dans les films comme Schwarzy le fait d'ailleurs beaucoup dans Last Action Hero, puisqu'il tacle vraiment Stallone et c'est assez drôle. D'ailleurs, Stallone réagira en 1993 parce qu'il va aussi sortir un gros film d'action qui s'appelle Cliffhanger. Voilà. Le film de John McTiernan, sorti en 1993, avait tout d'un énorme succès programmé, sauf que rien ne s'est passé comme prévu en fait. Imaginé sous la forme d'un conte pour enfants tendre et musclé, tout autant qu'un hommage au gros film bourrin qui commençait à passer de mode, Last Action Hero s'est méga planté et n'a totalement pas été compris par le public, la critique et même le studio. Alors, le studio avait commis une grosse erreur, c'est de le marketer comme un film d'action classique, alors que c'est tout l'inverse. C'est un film qui est vraiment très drôle, bourré de deuxième ou troisième degré, bourré de clins d'œil au cinéma. Un film que j'ai revu d'ailleurs avant d'écrire cette petite bafouille et qui n'a pas trop mal vieilli. Donc, le film se plante, malheureusement, à environ 50 millions seulement de dollars au box-office américain, alors qu'il en avait coûté pas loin de 85. Alors, le problème aussi majeur pour lui, c'est qu'il s'est retrouvé en face cet été-là de Jurassic Park qui avait tout déchiré. Jurassic Park sort une semaine après Last Action Hero et l'explose complètement dans le box-office américain. Pour autant, le film va quand même réaliser une carrière honorable à l'extérieur des États-Unis, hein, puisqu'il va rapporter en tout 137 millions de dollars et il a même rassemblé 1,8 million de spectateurs en France. C'est un film extrêmement contemporain qui questionne le genre du cinéma d'action en montrant les limites, mais aussi en s'en moquant gentiment. Moi, j'adore ce film. Je vous invite vraiment à le revoir parce qu'il est parcouru d'une magie et d'une tendresse que l'on ne voit que trop rarement. Bref, tout ça pour dire que Last Action Hero, c'est juste un film génial et en plus, comme je l'ai dit, bourré de clins d'œil au cinéma. On change un petit peu de style maintenant, on va aller en 1982 avec un film en noir et blanc signé Wim Wenders, le réalisateur allemand, que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, un grand réalisateur allemand qui a réalisé plein de films, notamment celui que vous devez voir impérativement, c'est Les ailes du désir, ça en fait deux déjà, et Paris, Texas. Donc l'histoire, alors l'histoire du film c'est au Portugal, dans un hôtel dévasté par une tempête, une équipe de cinéma tourne The Survivor, qui est un remake d'un film de science-fiction des années 50, mais le producteur disparaît soudain sans laisser l'argent suffisant pour finir le tournage s'arrête, la consternation fait ainsi place peu à peu au désœuvrement, à l'attente et enfin à l'action. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Wim Wenders est enlisé dans un tournage d'Hamlet qui n'en finit pas, qui n'avance pas, alors il décide de se relancer dans un film confession, visuellement et formellement très inspiré. Alors c'est un espèce d'home movie, improvisé au jour le jour à Sintra, au Portugal, où d'ailleurs il a recruté au pied levé l'équipe de tournage du film Le Territoire de Raoul Ruiz. C'est sans doute le film le plus noir de Wenders, tant sur la forme que sur le fond. On a en fait deux films en un. Un film immobile, avec les ruminations statiques sur la côte portugaise, des ruminations pleines d'amertume et de discrétion d'une équipe de tournage, qui est une véritable métaphore de ce qu'est le cinéma, ou du moins une partie du cinéma, et un road movie, dans un deuxième temps un peu fou, en Californie, où le producteur est recherché par le réalisateur du film. Ce road movie va se terminer d'ailleurs d'une façon un tout petit peu dramatique, je vous en dis pas plus. Toutes les histoires de cinéma parlent de mort, nous avait prévenu Fritz, le réalisateur, qui est l'alter ego de Wenders dans le film, et malheureusement, on en verra la concrétisation. On a dans ce film aussi, et c'est ce qui, moi, m'a le plus marqué, une longue séquence, belle séquence, dialoguée dans un mobilhome, en mouvement, entre le réalisateur et le producteur du film, où s'exprime toute l'autorité d'érision de Wenders sur son rapport au cinéma américain, son industrie et la mort annoncée du cinéma. On a vraiment deux personnes dans ce mobilhome qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage, et c'est parfaitement mis en scène. Un vrai beau film. Il se laisse voir qu'il faut appréhender pour ce qu'il est, c'est à voir. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.
Voici quelques messages. Écoutez Radio Campus en restant chez vous. Je répète, écoutez Radio Campus en restant chez vous.
Mademoiselle, avec tous nos voeux de bonheur, nous vous offrons pour votre jeune foyer ce guide dans lequel nous avons regroupé une documentation et des conseils qui vous aideront dans bien des cas. Faites-nous le plaisir de le conserver longtemps, de le consulter souvent et de réserver vos futurs achats aux maisons dont les publicités figurent dans ces pages. Elles nous ont permis par leur participation de vous offrir cet ouvrage. Ne manquez pas cet effet d'utiliser la carte d'acheteur Jeune Ménage placée au début du volume. Vous y aurez tout intérêt. Alors le ton est posé. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous lire quelques extraits d'un livre que j'ai trouvé chez ma grand-mère. Un livre qu'on lui a offert au moment de son mariage. Ce livre, c'est le guide des jeunes ménages. À l'attention exclusive des jeunes épouses, car oui, c'est à elles de savoir comment gérer leur ménage. Il a été créé en 1949. Ce guide se veut être la solution pour résoudre toutes sortes de problèmes. Vous y trouverez au sommaire, et vous allez rire, par ordre alphabétique, les rubriques suivantes. Alimentation des enfants, cadeaux, charbon, confort des enfants, décoration, gaz, lingerie, maison, meubles, papier peint, régime, transport, vin, et des conseils beauté évidemment, ainsi que des recettes des cuisines. Il a été édité et il fut édité par l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. Et c'est un bijou, vraiment, un bijou représentatif de la société patriarcale de l'époque où la femme nourricière et ménagère était si valorisée. Je ne vais pas vous faire la critique de ce livre. Je ne vais Je vais vous épargner les extraits du type la femme collaboratrice, la femme suppléante de son mari. Je ne vais vous lire que quelques pages. Je ne vous lirai pas les pages de l'équipement de la cuisine ou la liste des jouets et cadeaux proposés que si on est un homme ou une femme, une fille ou un garçon. Je vais prêter ce livre à mes amis de l'émission Ménage-toi Simone et les laisser vous en présenter des extraits qu'eux auront choisis. Et je pense qu'ils en auront beaucoup à vous dire. Je vais vous lire, quant à moi, la page 198 de ce livre, La radio. Car oui, la radio en 1949 faisait partie intégrante des ménages. Radio. De tout temps, la musique a accompagné les noces, et dans certains pays, les usages veulent que les cortèges de jeunes mariés soient précédés de violoneux, ce qui prouve qu'à la joie des jeunes époux doivent s'ajouter les plaisirs de la musique. Pourquoi, dès lors, ne pas prolonger cette joie après le mariage et se priver volontairement des bienfaits qu'apportent les émissions de la radiodiffusion dans tout intérieur, même modeste ? Ceci serait d'autant plus désagréable que probablement jeunes hommes et jeunes filles ont certainement été des auditeurs fidèles avant leur union dans leurs familles respectives. Posséder un récepteur de radio constitue donc un élément normal de confort et d'utilité pratique indispensable au foyer moderne, mais il est nécessaire d'avoir un bon récepteur de radio. Il n'est du reste pas utile, surtout si les ressources financières sont modestes, de jeter ses vues sur un appareil trop compliqué ou dont les performances sont hors cadre des écoutes normales. Tous les postes modernes ont un cadre antiparasite incorporé. Prenez de préférence un poste avec une prise pick-up. Celle-ci se révélera utile lorsque plus tard vous achèterez un tourne-disque à 3 vitesses. Préférez aussi un poste à alimentation par transformateur plutôt qu'un poste tout courant, légèrement moins cher. Un poste de 5 lampes suffit largement. Si vos moyens vous permettent, prenez un poste muni d'une gamme modulation de fréquence, mais seulement si vous habitez une région desservie par un poste émetteur de ce type ou desservie prochainement. Actuellement, Paris, Strasbourg et Nancy. Et surtout, adressez-vous à un radioélectricien établi et patenté. Vous serez guidé, conseillé et vous aurez sous la main de l'homme de l'art qui pourra à chaque instant vérifier votre installation et sera capable en cas de panne d'effectuer une réparation rapide de votre appareil. Et ce qui ne gâte rien, il pourrait peut-être vous vendre le récepteur de votre choix à crédit. Écartez systématiquement le voisin ou le parent qui construit des postes pour ses amis, car vous aurez toujours affaire à du matériel douteux et vous connaîtrez les pires difficultés en cas de contestation. Exigez de votre radioélectricien le bon de garantie qui accompagne tout appareil de marque sérieuse et si cet appareil porte une estampille de qualité telle que celle du label ou celle de la marque de qualité Use. Vous pourrez en toute quiétude goûter les joies de Dame Radio qu'on aime à entendre mais en sachant modérer sa voix pour ne pas importuner les voisins, surtout l'été quand on vit les fenêtres ouvertes. Et voilà! Je vous laisse avec cette réflexion radiophonique. Si vous, jeunes épouses, vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, je vous invite à aller fouiller les bibliothèques de vos grand-mères et faire comme je l'ai fait, le lire avec distance et humour, un recul nécessaire pour ne pas avoir envie de tout péter. A très bientôt, c'était Marie pour Radio Campus Tour, radio confinée, mais radio toujours en activité.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée du lundi au vendredi de 11h30 à midi et de 16h30 à 17h, et ce pour toute la durée du confinement. Je vais vous faire découvrir un livre qui peut s'avérer utile en ce moment, mais avant, on va passer la main à Solène qui va nous parler d'un film.
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Les mauvaises rencontres d'Alexandre Astruc, qui a influencé François Truffaut. En tout cas, il le liste parmi ses films qui ont compté pour lui. Alors avant de parler du film, quelques mots sur ce réalisateur, Alexandre Astruc. Il est né en 1923 à Paris. Il va se passionner assez tôt pour le cinéma. Après avoir écumé les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés, hein, rapidement il va travailler comme assistant réalisateur, notamment de Marc Allégret. Puis assez vite, il va écrire un manifeste. Il est assez connu pour ça, en fait, Alexandre Astruc. Ce manifeste, il l'écrit en 1948. Il va l'écrire dans L'Écran français. Et cet article va s'intituler « Naissance d'une nouvelle avant-garde, la caméra stylo ». Alors je vous en lis juste un petit extrait, vous pouvez le trouver en intégralité sur Internet. Je cite Alexandre Astruc, hein, « Le cinéma est en train tout simplement de devenir un moyen d'expression, ce qu'ont été tous les autres arts avant lui, ce qu'ont été en particulier la peinture et le roman, après avoir été successivement une attraction foraine, un divertissement analogue au théâtre de boulevard ou un moyen de conserver les images de l'époque, il devient peu à peu un langage. Un langage, c'est-à-dire une forme dans laquelle et pour laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi abstraite soit-elle, ou traduire ses obsessions exactement comme il est aujourd'hui de l'essai ou du roman. C'est pourquoi j'appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la caméra stylo. » Alors ce manifeste en 1948 va influencer son cinéma, mais aussi le courant de la nouvelle vague. En 1952, il signe Le Rideau cramoisi, un court-métrage avec Anouk Aimée, et 3 ans plus tard, il va écrire, toujours avec Anouk Aimée en tête d'affiche, Les Mauvaises Rencontres, scénario qu'il écrit avec Roland Lodenbach. Alors le film, comme j'ai dit, toujours avec Anouk Aimée, deviendra l'un des films marquants pour François Truffaut.
C'est au crépuscule qu'il faut découvrir Paris, lorsque l'on arrive de province et que l'on a 20 ans.
Alors, comme la semaine dernière, on est devant une œuvre assez littéraire, construite sous forme de flashback. On a un personnage qui s'appelle Catherine Racan, une jeune femme qui est montée à Paris pour faire carrière comme journaliste et va connaître plusieurs amants pour essayer d'accéder à un rang supérieur. Oui, hashtag femme vénale pour le coup. Un petit peu quand même, et c'est peut-être ça aussi un reproche que je peux avoir vis-à-vis du film. Alors, cette jeune femme se retrouve au Quai des Orfèvres pour une affaire de mœurs. Elle se retrouve au cœur de cette affaire malgré elle, hein, dans un univers parisien qu'elle a rêvé d'intégrer. Et on va se remémorer avec elle toutes ses rencontres, ses mauvaises rencontres. Alors Catherine Racan est incarnée par Anouk Aimée, qui est au début de sa carrière d'actrice à l'époque. C'est que dans les années 60 que sa carrière explosera, hein, la Dolce Vita, Lola, Un homme et une femme, 8,5 pour ne citer que. Pour les autres acteurs, on retrouve, alors je ne le connaissais pas, Jean-Claude Pascal, on retrouve un acteur qui deviendra lui réalisateur, grand réalisateur, Yves Robert. Voilà, il y a aussi, c'est l'un des tout premiers rôles, tout petit, hein, de Michel Piccoli à l'époque. Voilà pour les rôles masculins, mais c'est vraiment Anouk Aimée qui tient le rôle principal. Pour revenir au film, on a un récit étriqué, un sujet pas forcément intéressant, mais une façon de le mettre en scène en tout cas qui intrigue. On s'intéresse au personnage plus qu'au sujet de fond. On a une voix off très littéraire qui remet le contexte de l'histoire sans en expliquer forcément plus. Donc par rapport au Rideau cramoisi, on est vraiment là-dessus. Alors, Rideau cramoisi était entièrement fait que de voix off, hein, si vous le voyez. Là, il y a quand même du dialogue, les personnages parlent. Le film se passe pour la plupart du temps à Paris. Les bars bondés, les escapades dans un Paris nocturne. On a une dichotomie assez nette entre la province et Paris. La musique est signée Maurice Leroux. Elle apporte un côté, je le trouve en tout cas, assez mélancolique, poétique au film. Maurice Leroux travaillera d'ailleurs plus tard avec Godard sur Le Petit Soldat, avec Truffaut sur son court-métrage Les Mistons, pour ne citer que cela, mais il a une longue filmographie à son actif. Alors le cadrage est d'avant-garde, hein, lui qui écrivait rapidement, il y a un montage assez tonique, où vraiment tout est millimétré, il n'y a rien qui est laissé vraiment au hasard. La filiation avec la nouvelle vague, c'est le côté littéraire. Le film Les Mauvaises Rencontres est adapté d'un livre, une sacrée salade d'un roman de Cécile Saint-Laurent. Il y a une voix off. Cette voix off, elle va d'ailleurs considérablement marquer, par exemple, des cinéastes comme Chris Marker, Alain René. Je ne les avais pas vus avant et c'est vrai que la filiation, elle est assez nette quand on voit Le Rideau cramoisi. Le film est intéressant pour sa mise en scène et pour le fait qu'il met en pratique la théorie de l'auteur, cette théorie de la caméra stylo, comme je parlais tout à l'heure. Et comment un film peut être aussi puissant qu'un livre, c'est ça aussi qu'il dit. Donc si ça vous intéresse, allez creuser là-dedans, c'est assez intéressant, je trouve. Alexandre Astruc a commencé en étant journaliste. Il a fait connaître aux jeunes critiques des cahiers Orson Welles, Mizoguchi. Truffaut, qui est jeune journaliste au Cahier, a été influencé par le cinéma d'Alexandre Astruc et a fait connaître aussi ce cinéma-là aux jeunes cinéphiles de l'époque. Donc, comme une boucle qui se tourne et qui se transmet, c'est ça que j'aime bien, comme des passeurs en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Alors le film Les Mauvaises Rencontres est visible sur la plateforme La Cinéthèque, il n'existe pas en DVD, enfin je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas il est sur La Cinéthèque pour 1,99€, la copie est assez chouette, vous pouvez le regarder. Le Rideau Cramoisi, il n'est pas sur La Cinéthèque, mais vous pouvez le trouver sur YouTube, voilà, gratuitement. Alexandre Astruc est décédé en 2016, donc il n'y a pas très longtemps, mais son œuvre en tout cas a considérablement marqué la nouvelle vague, c'est Les Mauvaises Rencontres d'Alexandre Astruc. Astruc, A-S-T-R-U-C.
C'est l'heure où les premières lumières s'allument. L'heure où commence cette vie étincelante et mystérieuse de la capitale. Où l'on s'est promis dans le fond de son cœur de jouer quelques jours un rôle.
C'est devenu le sujet dominant dans la politique aux États-Unis et ici même en Europe.
Genau so verbreiten sich Fake News.
Les fake news et les rumeurs.
We're living in a fake news era, as you know.
I've been hearing more and more about a thing called fake news.
Fake news.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je suis actuellement en pleine lecture. Son titre est La démocratie des crédules, écrit en 2013 par le sociologue Gérald Bronner et édité aux Publications universitaires de France. Je l'ai découvert en regardant l'excellente chaîne YouTube Defecator, que je vous recommande par ailleurs, et dont vous allez entendre quelques extraits sonores durant cette chronique. Le postulat de cet essai est « Pourquoi les mythes du complot envahissent-ils l'esprit de nos contemporains ? Pourquoi le traitement de la politique tend-il à se pipoliser ? Pourquoi se méfie-t-on toujours des hommes de science ? Comment, d'une façon générale, des faits imaginaires ou inventés, voire franchement mensongers, arrivent-ils à se diffuser, à emporter l'adhésion des publics, à infléchir les décisions des politiques, bref, à façonner une partie du monde dans lequel nous vivons ? N'était-il pourtant pas raisonnable d'espérer qu'avec la libre circulation de l'information et l'augmentation du niveau d'études, les sociétés démocratiques tendraient vers une forme de sagesse collective ? Cet essai propose, en convoquant de nombreux exemples, de répondre à toutes ces questions, en montrant comment les conditions de notre vie contemporaine se sont alliées au fonctionnement intime de notre cerveau pour faire de nous des dupes. Il est urgent de le comprendre.
Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux.
Mytho !
Que des salades et que du flan !
Ouais, je gobe !
Tu nous prends trop pour des glands !
Dans un monde où l'information circule de plus en plus vite, l'apparition de rumeurs, intox et autres fake news ont envahi nos vies et nos esprits. Entre les sites humoristiques style Logography, qui font clairement de la parodie journalistique, mais qui parfois font naître des fausses rumeurs malgré eux. Il y a également des sites qui ont des dessins plus sombres, qui, quant à eux, sèment la désinformation pour mieux embrouiller l'esprit des gens. Par exemple sur YouTube, ça fourmille de vidéos de complotistes de tout genre qui vendent leurs salades pour se faire de l'argent sur le dos des gens crédules. Par exemple, la Terre est plate, les chemtrails laissés par les avions, etc., etc. Cette semaine, par exemple, on a pu entendre ceci dans les différents médias et sur les réseaux sociaux.
La proposition de Donald Trump de combattre le coronavirus avec une injection de désinfectant a consterné la communauté scientifique. De nombreux spécialistes ont accusé le président américain d'être irresponsable en faisant cette suggestion dangereuse. Je vois que le désinfectant assomme le coronavirus en une minute. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur, presque comme un nettoyage? Comme vous le voyez, le virus pénètre dans les poumons et cela fait un effet énorme. Il serait donc intéressant de vérifier cela. Et pour cela, vous devez recourir à des médecins, mais cela me semble intéressant.
Tout d'abord, ne le faites pas, hein, car c'est hyper dangereux. Et deuxièmement, le président Trump a déclaré par la suite que c'était de l'ironie. Chacun jugera du ton humoristique de cette phrase. Mais le problème est que cet extrait n'est que la face visible d'un immense iceberg de désinformation et d'obscurantisme dont nous pouvons toutes et tous être victimes. L'essai de Gérald Bronner n'est absolument pas une critique. Par ailleurs, il a été victime de biais cognitifs en répétant sans vérifier des légendes urbaines. Mais ça prouve que face à ces intox et autres légendes urbaines, nous sommes toutes et tous facilement manipulables. Donc, il faut toujours se rappeler.
Donc, ces gestes barrières, c'est pas compliqué. En 1, je ne sais pas, et ben je ferme ma bouche. En 2, je ne peux pas le vérifier, mais je ne le partage pas. Et en 3, je vois répondre n'importe quoi, et bien je réagis. Et voilà tout. Basique, simple.
Donc je vous rappelle la référence de ce livre, La démocratie des crédules, écrit par Gérald Bronner en 2013 et publié aux presses universitaires de France. Et attention à tout ce qu'on vous dit sur internet ou dans les médias, si vous avez un doute, vérifiez les informations et les sources et gardez à l'esprit.
Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux.
Mytho !
Que des salades et que du flan !
Ouais, je gobe !
Tu nous prends trop pour des glands !
Voilà, c'est la fin de cette chronique, une chronique un peu spéciale qui traite certes d'un livre, mais surtout qui vous donne peut-être envie de ne pas croire tout ce qu'on vous dit sur internet, car il y a beaucoup de choses sur les médias, c'est pareil. Faites attention à tout ce qu'on vous dit et restez éclairés. On se dit à très bientôt, salut à toutes et à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain pour En attendant que le monde change, même heure et même place avec Jean-Pierre. On va se quitter en musique avec Freddie Mercury et son titre Living on My Own, et avec les règles à respecter durant le confinement. Je vous dis à lundi, d'ici là, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, continuez à respecter le confinement et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro, salut à toutes et à tous.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi,
Et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.